Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Claude Imhoff, qui a été professeur à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Il a installé un atelier de recherche et de création dans le Perche, où il vit depuis 1974. Il est passionné de pédagogie, et il a travaillé avec divers partenaires en France et en Europe, particulièrement dans le secteur de l'équipement de l'enfance. Je l'ai reçu il y a un an pour une exposition qu'il fit à la Salle des Colonnes sur la dénonciation du gâchis des matières plastiques. Claude Imhoff, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, je sais que vous allez exposer au Compas, et cette exposition va durer de maintenant jusqu'en septembre. Je dirais même, je crois, jusqu'en janvier 2018, est-ce bien cela ?
Oui, en effet, du 29 juin 2017 à fin janvier 2018.
Et le Compas, pour nos amis qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
C'est une grande maison créée par le Conseil général d'Eure-et-Loire et dont le premier objectif est de s'intéresser à l'agriculture. Il y a notamment une collection magnifique de tracteurs, dont le plus ancien, je crois, date de 1880.
Oui. Quelle marque ?
Je ne saurais vous le dire, et je ne suis pas sûr qu'elle soit encore dans nos mémoires, la marque.
Ah.
D'où l'utilité du musée.
Bien sûr.
Et le Compas, dès sa mise en place, a créé un accueil à caractère pédagogique et se définit lui-même comme une sorte de musée-école.
Alors, musée-école, justement, c'est tout à fait ce qui vous convient.
En tout cas, je mets ça à ma place. Il y a des galeries permanentes de jouets qui datent aussi, dont les plus anciens doivent être de 1880. Et jusqu'à la guerre de 39-45, une bonne moitié, sinon les deux tiers des jouets, avaient un caractère fermier, animalier, rural.
Oui.
Et donc, ils sont naturellement à leur place dans une histoire au Compas.
Voilà, alors je rappelle que le Compas est situé à Chartres. Et cela, tous nos amis de Eure-et-Loire, j'espère, iront, parce que vous avez fait une exposition qui est fort intéressante, puisque vous avez créé chez vous, grâce à vos documents et grâce aussi à votre intelligence, parce que vraiment, moi, je dois dire que j'ai été absolument séduite quand j'ai visité votre atelier, car vous avez fait un matériel pour que les enfants puissent développer, moi je dirais, l'esprit mathématique, parce que ça m'a beaucoup, je dirais même bouleversée, mais aussi beaucoup d'autres aptitudes. Alors peut-être commencer par le début de cette création pour l'apprentissage des enfants.
Bon, le début est extrêmement simple, puisque ça débute avec l'éducation de mon premier enfant.
Oui.
Et comme ensuite il y en a eu trois autres.
Vous avez eu le temps de...
j'ai vécu de manière approfondie de manière à la fois spécifique et générale tout ce que pouvait représenter, enfin cette grande question que je me pose toujours, qu'est-ce que ça veut dire comprendre ?
Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? En général, quand on comprend pas, c'est que tu as mal lu l'énoncé, réfléchi, enfin, etc. Le problème, c'est que quand on ne sait pas encore lire, et on apprend quand même. Et alors donc j'ai été effectivement fasciné par le travail des grands pédagogues comme Friedrich Froebel en Allemagne, comme Itard en France, même si c'était pas au titre de pédagogie qu'il le faisait, mais en tout cas il en a quand même trouvé une pour cet enfant dit sauvage. Bon, et puis ensuite on va trouver beaucoup d'autres exemples, dont Maria Montessori, et puis enfin bon, il y en a d'autres. Alors Donc cette façon de considérer que l'enfant est capable d'apprentissage, est capable de mémoire, est capable de résoudre des problèmes, et ceci avant d'entrer à l'école, ceci avant l'âge de raison. J'ai trouvé ça extraordinaire, comme j'ai trouvé extraordinaire toutes les histoires que j'ai pu entendre qui ont conduit, par exemple, des pédagogues à s'occuper d'enfants sourds, muets, aveugles et de les conduire jusqu'au bac, et peut-être après. Donc alors, c'est quelque chose qui est extraordinairement merveilleux et donc qui m'a beaucoup impressionné et modestement, j'aurais bien aimé m'inscrire dans ce sillage.
Bien, vous êtes quand même inscrit dans ce sillage, puisque, oui, puisque vraiment, vous avez... Alors, moi, j'aimerais que vous commenciez par le début. Quelle a été votre première création pour l'éveil de votre enfant, puisqu'il s'agit de votre propre enfant au départ?
Mais je pense que, bon, comme par formation, hein, je viens du système des écoles d'art, beaux-arts, enfin, etc., bon, ben, je suis pas trop maladroit. Donc, j'ai fait des objets en carton, en bois, en papier, mais comme j'étais capable d'être un très bon danseur avec mes enfants, et que je suis incapable de danser avec une dame. Alors donc, là-dessus, j'ai laissé parler ma nature, et donc en même temps, ça m'a conduit à rechercher, par exemple, à trouver un autre sens que l'empilement à la manipulation des cubes.
Oui, alors, la première petite machine, moi je dois dire que cette machine, vraiment j'ai été séduite par cette petite machine qui permet à l'enfant d'observer et de pouvoir résoudre déjà un petit problème.
Alors, machine, c'est pas tout à fait le terme approprié. Il s'agit d'une entrée dans la compréhension de l'espace pour arriver un jour à la compréhension du dessin orthogonal et peut-être au-delà de la géométrie dans l'espace pour ceux qui voudront, mais qui conduit à s'appuyer beaucoup sur l'expérience des enfants. Donc tous les enfants ont joué avec leur ombre. Et peut-être parfois on les a aidés. Donc ils ont une idée de la relation qu'il y a entre l'ombre sur le mur quand le soleil se couche, mais aussi une ombre très longue s'il n'y a pas de mur. Donc alors cette expérience-là, qu'on retrouve par exemple dans d'autres jeux d'ordre de symétrie, la symétrie dans l'enseignement n'apparaît que dans une dimension mathématique, je crois, en CE1, et alors que tous les enfants à partir de 2 ans savent voir un arbre ou la lune dans une mare. Et donc la notion est déjà en place. Alors ils ne savent pas comment ils s'appellent, ils ne savent pas nécessairement en décrire, encore moins expliquer le phénomène, mais par contre s'ils doivent placer des pièces l'une par rapport à l'autre, cette notion est en place, et donc ils peuvent pratiquer la symétrie sans avoir besoin de savoir comment ça s'appelle, et le jour où ils auront à rentrer dans une compréhension, je dirais, plus abstraite, un grand pas sera déjà franchi, parce que le mécanisme sera intégré.
Alors, quel est l'objet que vous avez confectionné pour ça?
Ce sont des jeux avec des pièces magnétiques, dont l'un s'appelle Palais Oriental, et qui est constitué d'une vingtaine de pièces, enfin plutôt de 2 x 20 pièces de couleurs différentes, et dans ces pièces, il y en a des bandes assez longues qui comportent une ondulation et qui fait parfaitement comprendre une image de l'eau. Et alors, on peut monter les pièces les unes par rapport aux autres. Donc, il s'appelle Palais Oriental, celui-là, parce qu'il y a des arches, des fenêtres. Et donc, alors, on peut construire une figure librement avec une couleur. Et ensuite, il faut retrouver la réplique du reflet avec une autre couleur. Mais la figure peut être construite par papa ou maman et reproduite par l'enfant ou par un camarade, enfin, etc. Les procédures de jeu sont multiples. Beaucoup de gens qui utilisent ce jeu-là, qui n'ont plus d'enfants, l'ont à côté du téléphone et ça leur permet de ne pas gribouiller.
Parce que ce jeu-là, par exemple, donc il a été fabriqué par...
Il a été fabriqué, c'est une petite entreprise française qui est dans les Landes. Et,
parce que mais... le bois est très beau.
Oui, mais c'est pas en bois.
Ah, celui-là n'est pas en bois.
Non, non, c'est juste... non, c'est... Il y a un tableau métallique et des pièces en plastique.
Oui, j'ai parlé du bois parce qu'en fait, beaucoup d'autres objets, d'autres jeux, on peut dire, sont en bois.
Oui, certains sont en bois. En fait, dans ma manière de travailler, il y a deux procédures. L'une, une entreprise ou éventuellement une institution me pose des questions et j'essaie de répondre. Mmh. Et quand il s'agit d'une entreprise, eh bien, je donne des réponses qui rentrent dans le champ des capacités industrielles de l'entreprise. Donc, si l'entreprise travaille du bois, ça sera du bois. Si c'est du plastique, du métal ou du carton, enfin, donc la logique est la même. Bon, il faut avoir une petite idée de la manière dont on fabrique. C'est-à-dire que, évidemment, je prétends dessiner et concevoir des choses que je sais fabricables, et non seulement fabricables, mais fabricables pour obtenir un prix public acceptable.
Oui,
donc là, il y a les contraintes ordinaires de toute action de fabrication et de commercialisation.
Oui, d'entreprise.
Mais donc le bois, sur le plan industriel, a peut-être des exigences plus difficiles à maîtriser que le plastique.
Ah oui. Le sujet, ce serait de nous expliquer différents jeux éducatifs, parce que je crois que Nathan même a acheté vos jeux.
J'étais avec Nathan dans un partenariat qui a duré plusieurs années. Et donc, j'ai été chargé de réfléchir sur certains programmes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les programmes de grande motricité. Mais et j'étais aussi chargé d'amener des ouvertures nouvelles. Donc, autant pour identifier les attentes que pour formuler des réponses.
Alors, vous évoquez la grande motricité.
Oui.
Exemple.
Exemple, eh bien il y a des programmes chez Nathan qui ont conduit à imaginer ou plutôt à concevoir un matériel permettant de réaliser des parcours moteurs dans les salles dans les préaux d'école ou dans les grandes salles de motricité et avec une progression non pas de difficulté, mais de complexité de parcours, et donc qui conduisent l'enfant à adapter ses postures à des obstacles qu'on met sur son chemin. Mais en essayant que ces obstacles ne le rebutent pas.
Il faut que ça reste un jeu.
Il a envie de continuer.
Oui, c'est ça.
Et alors, bon, j'ai fait ça pour Nathan, mais je l'ai fait dans un autre contexte pour une entreprise danoise qui s'appelle Compan, qui pendant longtemps a été le leader et le modèle des aires de jeu dans le monde entier. Et cette entreprise là qui m'avait contacté, j'ai été en relation avec elle, avec cette boîte pendant une dizaine d'années, et me demandait plutôt d'éclairer l'avenir, d'avoir des intuitions sur le futur, parce qu'eux-mêmes étant très équipés sur le plan de la conception des jeux, ils avaient en poste une dizaine ou une douzaine de designers, ils me demandaient surtout de ne pas décider de forme, mais de montrer ce que des enfants allaient pouvoir vivre en termes d'expérience motrice, sensorielle, etc.
Oui.
Et donc, c'était une collaboration passionnante.
C'était dans vos premiers travaux ?
Dans les premiers, je pense que ça c'est... Mes premiers travaux sont de la fin des années 70. Et je pense que c'est à cheval sur les années 80-90 que j'ai beaucoup travaillé avec Nathan, avec Compan. Mais je travaillais avec Compan, avec Nathan en même temps.
Ouais. Ah bon. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Toujours avec Claude Imhoff, qui a été professeur à l'École nationale des arts décoratifs de Paris, et il a installé un atelier de recherche, je dirais. Et dans une première partie, il nous a expliqué comment il avait pu concevoir des jeux éducatifs. Alors justement, Claude Imhoff, la question qu'on peut se poser, c'est comment avez-vous travaillé? Est-ce que c'est simplement, vous nous avez dit que c'était vos enfants qui vous avaient guidé, mais j'imagine que peut-être vous avez voulu aussi voir comment d'autres enfants pouvaient réagir à vos inventions.
Oui, oui. Tout à fait. D'entrée, je n'étais pas intéressé par la répétition, même en modifiant la forme, d'un objet déjà connu. Mmh. Peut-être en oubliant toute modestie, j'avais envie
de créer,
d'inventer au-delà de ce qui avait été déjà fait. Alors, et pour ceci, bon, je pouvais avoir confiance en moi, mais l'expérience me montre aujourd'hui que ce qui est décisif, c'est d'observer les enfants avec une grande patience, en étant non interventionniste, mais aussi j'ai eu la chance d'avoir des échanges extrêmement fructueux avec un grand nombre d'enseignants, institutrices, instituteurs, conseillers pédagogiques, mais aussi dans le secteur du handicap avec orthophonistes, orthoptistes, kinés, enfin j'en oublie. Et aussi avec des psychologues spécialisés dans le sport. Toutes ces personnes ont eu toujours la gentillesse de ramener dans un champ compréhensible pour moi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait ce type d'études, des phénomènes ou des notions qui pouvaient être complexes, mais en les ramenant dans quelque chose qui était acceptable, parce que ils avaient envie que je les comprenne, parce que ils me disaient qu'ils étaient intéressés par ce que j'amenais en retour.
Oui, parce que je signale à nos auditeurs qu'on peut toujours trouver en pharmacie une de vos découvertes sur la notion d'équilibre.
Pharmacie, pas tout à fait.
Alors, dites-nous
tout. C'est effectivement un objet qu'on trouve chez de nombreux kinésithérapeutes.
Oui, on n'était pas loin. Alors, expliquez cela.
Bon, alors, il s'agit d'un plateau d'équilibre, c'est-à-dire que c'est une
planche,
un plateau sur lequel on peut poser ses deux pieds. Et devant les pieds, il y a un plateau circulaire en forme de labyrinthe où circule une balle. Et donc, alors c'est un jeu classique qu'on utilise avec ses mains. Donc il y a un petit circuit, et puis en faisant basculer le plateau, il faut mettre la balle au milieu. Alors la difficulté là, c'est qu'il faut le faire en déplaçant le poids de son corps.
Oui, c'est ça.
Donc alors c'est donc de la motricité en équilibre, et qui demande donc à garder son assiette, comme on dit en sport, et en même temps, en essayant de suivre un parcours, notamment contrôlé par la vision. Et c'est quelque chose que l'on peut facilement installer, on peut très tranquillement pratiquer sans avoir besoin d'échauffement, on peut l'abandonner à tout moment, et on n'est jamais sûr de réussir. Bon, moi, j'ai eu ça pendant des années dans mon atelier. Et le matin, pour voir dans quelle forme j'étais, je me mettais dessus. Quelquefois, en 20 secondes, j'y arrivais. Puis d'autres fois, je renonçais.
Oui, quand donc, on commence,
ça
moi,
me donnait
j'ai essayé.
Une information sur moi-même.
J'ai essayé chez vous, c'est pas facile. C'est pas. Bon.
Oui, mais
faut avoir le sens de l'équilibre.
Le mode facile a pas d'importance, d'autant que ce plateau, le jour où on ne peut plus le faire en étant debout, on peut le faire assis.
Ah oui.
Et puis en utilisant ses pieds, bon, donc, puis on peut le rendre plus difficile. Donc voilà, c'est une motricité. Alors, on est dans une période où on commence. À s'interroger sur l'effet de toutes les longues périodes passées devant les écrans.
Oui.
Et bon, ces écrans qui comportent des choses extraordinaires, en même temps, ont un gros défaut, c'est que ils spécialisent, ils ont une spécialité sensorielle, c'est-à-dire que l'essentiel est dans la vision, et encore essentiellement dans la vision centrale. et donc pas dans la vision périphérique. Alors en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui étaient intéressées par la création d'objets qui auraient donné des, non pas des alternatives, mais des compensations aux longues stations passées devant, devant les écrans.
Ah bon ?
Pour remettre les yeux en face des trous, si je puis dire.
Et alors ?
Eh bien...
Qu'avez-vous créé ?
Mais non, mais ce plateau fait partie de cette histoire. Mais d'autres jeux, par exemple comme des jeux de construction, en font aussi partie, c'est-à-dire qu'ils imposent pour construire de changer de place pour regarder un objet selon les trois grandes directions de ce qu'on a, dans ce qu'on appelle en général la vue de face, la vue de dessus et la vue de côté. Et donc il s'agit de construire par rapport à un modèle en empilant des pièces pour que la lecture de chaque profil soit conforme au dessin de la projection.
Ah oui, ces objets, on va pouvoir les admirer, les observer. Est-ce qu'on pourra jouer avec?
Alors,
aussi
le compas va installer des espaces d'expérimentation. Donc un certain nombre d'objets ne pourront pas être touchés parce que il s'agit de pièces, bon, dans mon esprit, qui sont presque des pièces de collection ou des maquettes, et celles-là seront naturellement protégées. Mais il y aura plusieurs ateliers qui permettront de manipuler... manipuler du matériel, oui. Et je crois que certains jours, il y aura des animations encadrées.
Et par des professeurs,
par les équipes du compas.
Ah oui.
Qui a une équipe d'animateurs qui joue ce rôle tout au long de l'année.
Donc des écoles pourront venir.
Ah mais le compas reçoit plusieurs, je sais pas, de 4 à 8 écoles par jour.
Ah oui, en temps normal.
Oui, donc tous les musées ont un problème de fréquentation. Et l'école est une façon de compenser ça. Donc il y a, je dirais, toute proportion gardée, un peu le même fonctionnement qu'à la Villette.
Ah oui. Ah oui, c'est aussi...
à la Villette, oui. Tous les matins, il y a 40 autocars... et avec des classes qui ont réservé, qui vont avoir des visites guidées, des parcours expérimentaux, etc.
Ah oui.
Donc, et là, c'est un peu le...
même style.
Effectivement, à échelle plus réduite, un peu la même logique.
Alors, l'arbre à jouer aussi, voilà quelque chose de très intéressant.
L'arbre à jouer, c'est le nom d'une entreprise qui a disparu, mais avec qui j'ai une collaboration assez longue.
Oui.
Avec l'arbre à jouer, j'ai notamment proposé de développer des produits liés à l'équilibre. Mais cette fois, c'est pas l'équilibre du corps. Il y a deux produits que j'ai développés dans ce sens-là, dont l'un que j'avais appelé le vaisseau fantastique, qui était baptisé par l'entreprise Bateau Ivre. C'était bon, c'était pas mon option, mais c'est pas moi qui était responsable du commerce. Et donc le Bateau Ivre est une coque à double courbure qu'on peut poser sur une table, et donc il peut se balancer dans toutes les directions. Sur cette coque, il y a des mâts et des vergues, et sur cette vergue, on peut poser à tour de rôle un anneau ou ôter un anneau, ce qui fait qu'on va provoquer une inclinaison de la coque. Et il y a une rainure tout au long de la coque dans laquelle circule une bille, et donc tout l'objectif est de gagner la bille, donc en enlevant ou en ôtant des anneaux. Alors voilà, donc...
À partir de quel âge on peut jouer à ça ?
On peut jouer assez tôt, gagner un peu plus tard. Mais, ce qui est amusant, en l'occurrence, c'est un produit que j'ai imaginé parce qu'un jour, cette entreprise m'a envoyé une caisse en carton dans laquelle il y avait 5 kilos d'anneaux, des grands, des petits, et avec une carte de visite sur laquelle il était écrit « S'il vous plaît, monsieur Imhoff, inventez un jeu pour vendre des anneaux.
» Et vous le fites ?
Ben, vous l'avez sous les yeux, et ils seront présentés dans cette
expo. Ils seront présentés au compas.
Oui, oui. Et il y en a un autre que j'ai appelé Instable Boys, parce que tout devait être nommé en anglais, parce que la commercialisation passait toujours par l'international. Et donc, on pensait qu'un Français finirait par accepter l'anglais, mais que, par contre, le reste du monde aurait du mal à accepter le français. Et alors là, il s'agit d'un...
Alors, redites-le-nous en français.
Bon, garçon instable.
Garçon instable.
Et donc, ou alors, on aurait pu le nommer acrobate. Enfin bon, c'était une image. Et alors, il s'agit là d'associer des petites figurines par des bâtonnets. Et sur ces bâtonnets, on peut mettre des perles en contrepoids qui va permettre de faire des figures qui vont s'apparenter à des mobiles, mais en faisant en sorte que, en mettant une de ces figurines comme point d'appui, l'ensemble de la charge aura son centre de gravité en dessous de ce point d'appui. Donc, ce qui fait que on aura un équilibre considéré comme stable. C'est le jeu auquel on s'amuse facilement, par exemple en équilibrant une fourchette et un bouchon sur le bord de son assiette.
Ouais.
Ce que tout le monde ne fait pas tous les jours, mais je pense que ce que tout le monde a peut-être fait ou vu faire un jour.
Et vous avez conçu ça en pensant à la fourchette ?
Non, pas du tout, c'est dans les exemples. Parce que il y a des jeux comme ça depuis la nuit des temps, mais ils n'étaient pas transformables. Là, la question, c'est de le rendre transformable d'une certaine manière pour essayer de mettre le plus de pièces possible, pour aller le plus loin possible, pour faire une configuration la plus surprenante dans l'espace. Donc, qui est aussi un enjeu à continuer.
Parce qu'en fait, quand il y a un jeu que vous concevez, on va pouvoir, plus on grandit, peut-être plus, enfin, améliorer ses capacités.
Je ne répondrai pas de manière aussi précise. Par contre, un certain nombre de jeux que j'ai faits, et en particulier ceux que j'ai développés avec une entreprise allemande, sont vendus aussi bien dans les kindergarten ou écoles maternelles quand ils sont vendus en France, mais aussi dans des centres d'apprentissage de formation technique, mais aussi dans les maisons qui accueillent des personnes vieillissantes. Et donc, par exemple, un jeu de construction qui là s'appelle Schattenbauspiel, puisque là, ça voudrait dire jeu de construction par les ombres, sont utilisés dans des maisons de retraite en vue d'essayer de limiter ou de prévenir l'apparition de perte de mémoire.
Ah oui. Et il y a beaucoup de maisons de retraite qui ont ces jouets.
Je n'ai pas ces chiffres-là, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en Allemagne, ce jeu fait l'objet de paris dans des jeux télévisés, et il y a donc le modèle. Plutôt les trois projections des trois vues, donc de face, de dessus et de profil, qui sont exposées. Et les joueurs doivent dire combien de pièces et quelles pièces il leur faudra. Il y a des configurations complexes. Et ceux qui trouvent la bonne réponse avec le bon nombre de pièces vont gagner quelque chose, et ceux qui n'en ont pas assez vont devoir payer quelque chose, et ceux qui en ont trop vont payer aussi. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu.
Eh bien, écoutez, un grand merci, Claude Imhoff, parce que je crois que nous aurons tous envie d'aller à Chartres, visiter le combat et admirer vos créations.
Oui, quelques visites commentées sont prévues. Mais je n'en ai pas les dates aujourd'hui.
Eh bien, chers amis auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Claude Imhoff.
Merci, Christiane.